Le Seigneur soit avec vous.
Avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marthe arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et au ciel et dit « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien à moi que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage entouré d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous sommes en présence d'un évangile qui est dense, bien sûr, long et dense, qui cherche à aider les catéchumènes qui sont en chemin vers Pâques à découvrir que Jésus est la vie éternelle et que nous pouvons dès aujourd'hui participer à notre vie, à cette vie éternelle. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette messe, cet évangile cherche à nous aider à porter un autre regard, à la fois sur la vie, sur notre vie, mais aussi sur notre mort. Et j'aimerais, avec cet évangile, avoir la même pédagogie que celle qu'avait eue M. Jean-Marie Élie Sedbon, il y avait une belle conférence qu'on a eue ici, durant ce carême, où il disait que, à la fois seul, mais aussi en famille, nous devions questionner en permanence l'Évangile, même quand des choses nous apparaissent bizarres. Il y a peut-être justement des détails qui nous permettent de révéler des réalités plus profondes. Alors, deux questions simples à travers cet Évangile. Première question, pourquoi Jésus attend-il si longtemps pour aller voir son ami Lazare malade? Deuxième question, pourquoi Jésus ressuscite-t-il Lazare? Première question, pourquoi cette attente? Vous qui avez bien sûr médité cet évangile avant de venir, vous avez repéré qu'au départ, Jésus met du temps. Il sait tout de suite que son ami est Lazare, que son ami Lazare est malade, voire même très malade, et pourtant il est dit, quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Pourquoi n'est-il pas venu tout de suite voir son ami Lazare pour le guérir? Et l'on voit et on comprend mieux les réactions de ses sœurs. Si tu étais venu, tu aurais pu le guérir, venu plus tôt. À travers ce fait, nous avons comme illustré ce qu'on pourrait appeler le silence de Dieu. L'absence de Dieu, l'absence de réaction de Dieu quand tout va mal dans notre existence. Pourquoi ce silence de Dieu? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Et on comprend bien, et c'est une question qui est importante parce qu'elle est souvent à la base de tous les athéismes ou du doute même qu'il y a en nous. Si Dieu avait été présent, il n'aurait pas laissé une telle chose se faire. Si Dieu avait été là, il n'aurait pas laissé mon conjoint partir ou être malade. On voit bien, c'est des questions qui sont récurrentes en nous et qu'on le retrouve à tous les siècles, dans tous les siècles. À travers cette question, on a ce paradoxe de notre relation à Dieu. À la fois, on aimerait que le Seigneur soit là pour maîtriser le réel à notre place et éviter que nous ayons tous les ennuis possibles et éviter, bien sûr, que les épreuves arrivent. Donc, Dieu compris comme ce pompier ou ce médecin urgentiste qui vient nous aider quand ça va mal. Mais d'un autre côté, quand tout va bien, on ne veut pas non plus qu'il vienne nous dire ce qu'on doit faire et régler notre existence. On veut de lui quand ça va mal, mais quand ça va bien, on l'oublie facilement. On ne veut pas non plus obéir à ce Dieu. Nous devons conserver notre liberté. On voit bien tout le paradoxe. Et à travers ça, bien sûr, on a une vision de Dieu qui est utilitariste, mais qui est surtout infantile, comme un enfant. Voilà. C'est pas une vision de Dieu adulte. Donc pourquoi, finalement, ce silence de Dieu? Pourquoi cette absence de réaction de Jésus quand tout va mal? À travers cet évangile, nous comprenons que Jésus ne vient pas répondre à toutes nos questions. Jésus vient simplement relever l'humanité. Et nous le comprenons à travers le terme, le sens du mot résurrection, qui vient d'un verbe grec, egeiro, et le verbe egeiro veut dire relever, redresser. Le Christ ne vient pas maîtriser le réel, notre réel à notre place, il vient nous aider à le vivre, nous aider à l'assumer en nous relevant à chaque fois. Tel est le Christ, tel est ce Dieu. Ce n'est pas un Dieu magicien, hein, non, c'est un Dieu qui vient nous aider à vivre notre vie d'être humain. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons deux réactions finalement. Et nous les voyons bien à travers ces deux sœurs. Marie, finalement, qui est dans l'abattement, qui semble avoir tout compris, Marie. Eh bien, elle n'a rien compris, elle est dans l'abattement encore plus, et elle reste dans l'abattement pour être consolée en permanence. Et elle va se plaindre au Christ, et on comprend cette plainte. Si tu avais été là, mon frère serait guéri. Et nous avons Marthe, qui semblait n'avoir rien compris, et qui, pour le coup, a tout compris. Marthe, elle, dit à Jésus aussi, si tu avais été là, mon frère serait guéri, mais elle sait encore qu'il peut faire quelque chose. Et Marthe, plutôt que d'être dans l'accablement, décide, choisit à nouveau de s'attacher au Christ fermement. Elle s'y attache jusqu'à ce que le Christ lui donne un signe de sa présence, jusqu'à ce que le Christ lui donne un signe pour comprendre ce qu'elle vit et pour l'aider à vivre sa vie, pour l'aider à vivre l'épreuve qu'elle vit, un signe de sa présence. Et voilà Marthe qui nous est donnée en exemple. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, attachons-nous au Christ fermement. Attachons-nous à lui jusqu'à ce qu'il nous donne un signe de sa présence, qu'il nous dise qu'il est auprès de nous pour vivre l'épreuve que nous vivons. Le Christ n'est pas venu pour maîtriser le réel que nous avons du mal à maîtriser, mais pour nous relever chaque jour. Deuxième question, pourquoi Jésus a-t-il ressuscité Lazare ? Ça m'est venu hier matin dans ma méditation. Finalement, est-ce que c'est vraiment une miséricorde pour Lazare que d'avoir été ressuscité? Il était mort, il commençait au bout de 4 jours à approcher, enfin on est en dehors du temps et de l'espace, à approcher les portes du paradis, et voilà que tout d'un coup, par la voix de Jésus, machine arrière, et le voilà, entouré de ses bandelettes, à nouveau dans son tombeau. Certes vivant, mais est-ce que c'est vraiment une miséricorde pour lui? Et à lire ce passage, on comprend que cette résurrection n'est pas d'abord une miséricorde pour Lazare, n'est pas faite pour lui, mais s'il est ressuscité, c'est d'abord pour qu'il soit un signe pour les personnes qui sont autour du Christ, et ensuite pour qu'il soit un signe pour tous ceux qui entendent ce récit de la résurrection de Lazare, et que nous sommes bien sûr en ce jour dans cette Église, un signe pour nous tous, pour le monde, pour l'humanité à travers l'histoire. Un signe afin d'aider l'humanité à changer son regard à la fois sur sa vie, mais aussi sur sa mort. Changer notre regard sur notre vie. Quand on regarde bien notre vie, finalement, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde pour nous. Cette vie, nous y sommes attachés. Nous faisons tout pour la préserver. Nous faisons tout aussi pour la rendre plus heureuse, bien sûr. Nous sommes tellement attachés que nous faisons tout pour elle, en quelque sorte, quand on regarde bien. Et finalement, avec l'âge, nous comprenons que notre vie, c'est plus compliqué que cela. Et parfois, tout semble partir à volo, nous ne maîtrisons finalement plus grand-chose. Et notre vie ressemble parfois, c'est ce que disait le pape Benoît XVI, à un tableau de Géricault qu'on appelle le radeau de la Méduse. Parfois, les choses ne vont pas du tout dans notre sens. Et notre vie ressemble à ce radeau qui subit tous les vents contraires. Et nous restons un peu comme les personnages de ce tableau, accrochés à ce qui tient encore debout, avec un regard désespéré vers l'horizon en espérant un secours, ou bien en espérant surtout qu'un nouveau problème n'arrive pas, qu'une nouvelle épreuve n'arrive pas encore pour complètement couler ce qui reste de notre vie. Le
radeau, un petit peu à l'image de la vie de l'humanité, quand on s'accroche trop à notre existence, quand on est trop attaché finalement à nous-mêmes, à notre existence. Le Christ nous dit et nous révèle que ce à quoi nous devons être attachés, c'est à lui, bien sûr, uniquement à lui, car il est la vie, il est la résurrection. Et il nous permet de vivre dès aujourd'hui de cette résurrection. Nous ne devons pas attendre la mort pour vivre de cette résurrection. Nous le croyons, et c'est ce que signifie cette résurrection de Lazare, c'est que la résurrection est déjà au milieu de nous. Il y a une actualisation de cette présence du ressuscité en nous et dans notre vie. Nous n'avons pas à attendre quelque chose d'autre. Et il y a une parole très surprenante que nous dit le Christ, qui peut paraître un peu abstraite. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, mais plus tard, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Comment comprendre cette parole, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais? Dire que si nous croyons et nous vivons, nous laissons le Christ vivre en nous, nous vivons déjà de cette vie éternelle. Nous sommes déjà vivants. Nous n'avons plus à craindre la mort. Peut-être que certains parmi vous, à l'hôpital ou chez eux, en accompagnant un défunt, un proche, qui est sur le seuil de la mort, a pu vivre déjà cette expérience. Il y a des personnes parfois sur le seuil de la mort qui sont déjà vivantes de cette vie éternelle, qui participent déjà à cette vie éternelle. Et elles nous surprennent par leur façon de mourir, parce qu'elles sont déjà vivantes. Voilà donc cette bonne nouvelle que nous devons annoncer. Le Christ, aujourd'hui, nous croyons en un Christ qui vient nous relever, qui vient nous relever, qui vient rendre vie à toutes nos morts aussi, toutes nos zones de mort qui sont en nous, capable de rendre la vie à toutes nos morts, et nous croyons qu'il est capable de nous faire avancer dans cette vie, en hommes et femmes heureux. Voilà donc cette bonne nouvelle que nous devons annoncer. Alors à l'approche des rameaux, à l'approche de la Semaine Sainte, je vous propose de récupérer dans notre Église, à la fin de la messe, simplement ce petit feuillet qui annonce à toutes les festivités, à tout ce qui va se vivre durant notre Semaine Sainte. D'en prendre plusieurs, afin de distribuer à ceux que vous pouvez connaître. De témoigner ainsi en distribuant ce petit feuillet, de ce qui vous anime, de ce en quoi vous croyez, de ce qui vous fait vivre encore aujourd'hui, de ce qui fait que vous êtes relevé à chaque fois que vous croyez en lui. Prenez donc ce feuillet, prenez-en plusieurs, distribuez-les à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui ont besoin de comprendre que le Christ est auprès de vous et auprès d'eux. Comprenez aussi que nous avons besoin de prier, à la fois pour les uns et pour les autres. Priez aussi pour notre pays, qui s'approche des élections présidentielles. Certains nous font croire qu'on est déjà sur le radeau de la Méduse. N'hésitons pas à lui dire que si nous nous accrochons au Christ, alors notre horizon s'ouvre et c'est la vie éternelle, déjà présente dans nos vies, qui vient dès aujourd'hui nous guider. N'ayons donc aucune crainte de l'avenir.